Oui.
Просит объяснить 10. Что такое левый, правый, 10? Что это такое?
Mais est-ce qu'on passe directement aux questions alors,
c'est intéressant.
Voilà.
C'est intéressant de noter lorsqu'on considère la déisis, c'est-à-dire le thème de la prière de l'Église, que cette image se lit non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. C'est-à-dire, pour nous qui la contemplons, elle se lit de notre droite à notre gauche. Mais l'image est le lieu d'une présence, et le Sauveur qui nous regarde a à sa gauche Saint Jean-Baptiste et à sa droite la Sainte Vierge. Autrement dit, il y a deux lectures de l'image, une lecture où nous projetons notre latéralisation, et une lecture où nous inversons notre latéralisation pour occuper la perspective du Sauveur. Et ce qui est intéressant dans la théorie du plan de Koninsky, qui n'explique pas ça, c'est qu'il parvient, par l'analyse des résonances, à la même conclusion. Et alors, quand on compare à l'icône, c'est frappant. Parce qu'on se dit, évidemment, pourquoi on n'a pas représenté Saint Jean-Baptiste à gauche, à notre gauche, puisque c'est dans ce sens-là qu'on lit l'image. Eh bien non, c'est comme dans l'image, l'icône quadripartite. L'icône a sa cohérence en elle-même. Et d'ailleurs, dans l'icône quadripartite, Saint Jean est en bas à droite de notre regard, et la résurrection, le thème central, est en haut à gauche. Vous vous rappelez? Donc c'est bien une sortie de nos limitations perspectives, une sortie de notre installation dans l'espace, pour passer à un regard absolu, que le père Pavel Forensky a parfaitement théorisé avec la perspective inverse, qu'on pourrait appeler aussi plus précisément perspective multicentrique. Ce serait plus adapté. Oui.
J'aimerais poser une question. Je me réfère tout d'abord à ce que vous avez dit du point et du plan tout à l'heure, et du rôle du point et celui du plan. Si on suppose que le plan est là où est un lieu d'accueil de la peinture ou de la composition ou des couleurs ou des formes, au fond, si je regarde les compositions que vous nous avez montrées, j'ai l'impression que ça donne toute liberté sur les dimensions. Je ne sais pas d'ailleurs si les dimensions et les perspectives sont équivalentes, je ne suis pas absolument sûre. Mais je pense que dans ce que vous nous avez montré, il n'y a pas seulement une méditation sur les couleurs et sur les formes, mais aussi une méditation sur les dimensions. Et à la même époque, je crois que chez Duchamp, on voit aussi un peu ça, et puis il y a les travaux de Poincaré. Et tout ça a été un peu... Et donc, j'ai trouvé, surtout dans l'une de ces compositions, cette chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir combien il y a de dimensions. On ne voit plus l'image comme interprétée par un espace englobant. Il y a là une chose qui émerge, qui est extraordinaire.
Oui, je crois que c'est très juste. Il y a cette possibilité de se projeter dans la toile. Alors, je voudrais évoquer, je ne sais pas si vous voyez, au musée de Novgorod. Je prononce à la française. Dans le musée de Novgorod, donc, il y a une image de la transfiguration. Et alors, cette image de la transfiguration m'a passionné, je l'ai analysée. Et je me suis aperçu qu'on... il faudrait que je fouille dans mon ordinateur pour ressentir la démonstration, mais je l'ai donnée dans mon livre sur les icônes. je me suis intéressé à sa construction, parce qu'elle me paraissait parfaitement rigoureuse. Et la construction géométrique, j'ai pu la reconstituer entièrement. Tous les points peuvent se retrouver de manière géométrique. Et cette image ne demande aucun instrument, simplement une ficelle et un charbon pour être reconstruite. Elle peut avoir cette dimension ou cette dimension. Alors, si la composition 6 a une certaine relation avec l'ouverture du théâtre de la cour à Saint-Pétersbourg, c'est une relation de proportion.